Bonjour et bienvenue à notre deuxième conférence de la chaire de recherche en droit et médecine. La semaine, ou il y a 2 semaines, on a eu le plaisir et privilège d'écouter le professeur Jacques-Yvan Morin et aujourd'hui le professeur François Rangeon, dont la femme est aussi avec nous. Madame Rangeon étant professeure en droit privé, même l'université de Picardie, Jules Verne. Alors, aujourd'hui, nous allons écouter donc professeur Rangeon sur l'intérêt général et les notions voisines. Vous allez voir la transition par rapport à la présentation de professeur Morin il y a 2 semaines. Et aussi une approche plus science politique, car le professeur François Rangeon est professeur de sciences politiques à l'Université de Picardie Jules Verne. Et en lisant son CV, j'ai constaté qu'il y a un doctorat à la fois en Sciences Po et un doctorat en philosophie et un DA en droit public. Donc, tout à fait une formation idéale pour présenter sur le sujet. Il était vice-président de l'Université de Picardie Jules Verne entre 91, 97, pardon, et 2001. Et juste pour nommer 3 de ses bouquins, je pourrais citer La démocratie locale, PUF 99, Crise économique et modernisation de l'État, publié par Brûlant à Bruxelles en 98, et un livre que vous avez fait ensemble avec la faculté d'administration publique de Moncton en Nouveau-Brunswick. Donc, c'est un ami de notre pays, évidemment. Et l'intercommunalité, bilan et perspective, PUF encore à Paris en 97. Moi, j'ai eu le plaisir de jaser, comme on dit en bon québécois, hier soir avec monsieur et madame Rangeon. Et encore, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. On suit toujours même approche en présentation, 15 minutes de discussion, suivie d'un petit buffet qui permet aux gens ici présents de vous poser des questions si toutes les questions ne sont pas épuisées. D'accord, merci.
Merci. Mais écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que le plaisir est partagé. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans votre belle université. Je suis vraiment heureux d'être ici, de vous parler d'une notion qui est une notion très, très importante, l'intérêt général, qui est une notion transversale, interdisciplinaire, transdisciplinaire, qui à la fois est au carrefour d'une tradition philosophique, d'une tradition juridique, politique. Alors, on parle aujourd'hui parfois de crise ou de déclin de l'intérêt général dans une période où on nous dit que l'individualisme est devenu dominant. En même temps, c'est une notion, l'intérêt général, qui est toujours extrêmement présente dans les discours à la fois nationaux, internationaux, dans les discours politiques, juridiques et philosophiques. Alors, c'est une notion ancienne, puisqu'elle s'enracine dans un très riche passé culturel. Elle a résulté d'une synthèse de différentes notions, l'intérêt public, l'intérêt commun, le bien public, le bien commun. Alors aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à une confrontation entre l'intérêt général et le bien commun, qui est la notion clé de cette série de conférences, mais également la notion d'utilité publique, d'utilité commune, de profit commun. Et l'intérêt général a en quelque sorte synthétisé la richesse des apports de ces différentes notions. Elle est plus spécialement rattachée au pouvoir de l'État, puisque l'intérêt général est traditionnellement défini comme étant le fondement, la finalité et la limite du pouvoir d'État. Mais aujourd'hui, cette notion d'intérêt général a donné naissance à d'autres notions apparentées. On parle désormais d'intérêt général local, d'intérêt général européen, d'intérêt économique général, et puis, au-delà, de nouvelles notions qui ont pris leur essor, comme le professeur Morin vous l'a expliqué il y a une quinzaine de jours, des nouvelles notions telles que le patrimoine commun de l'humanité, telles que la notion de bien public mondial également, sur lesquelles vous aurez d'autres conférences par la suite. Alors, ces notions ont chacune des sens différents, et parfois on n'y fait pas toujours suffisamment attention, et donc il est important peut-être de revenir sur l'histoire et l'origine de ces notions. Alors d'abord cette notion de bien commun, qui est née au XIIIe siècle, dans la théologie, et en particulier dans l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, et qui a une dimension morale qui est très, très importante. Elle est liée à l'idée de justice. Quant à la notion d'intérêt général, elle est plus récente, elle est apparue au XVIIIe siècle, et son histoire est plus étroitement liée à la construction de l'État moderne. C'est une forme de laïcisation, de sécularisation, de rationalisation du bien commun, et elle a une dimension à la fois juridique et politique qui est dominante. Alors ces histoires de mots ne sont pas sans intérêt, parce que au-delà des mots, il y a toute une série de problématiques, et à travers par exemple le couple conceptuel intérêt général, intérêt particulier, on voit apparaître d'autres couples conceptuels, tels que le rapport entre l'État et la société civile, entre l'État et le marché, ou le rapport également public-privé. Cette notion d'intérêt général intervient également dans les mécanismes de légitimation de la décision publique et dans les processus de prise de décision. Le domaine de la médecine et plus largement de la santé est également très largement concerné par cette notion d'intérêt général, dans la mesure où la santé est par excellence un problème d'intérêt à la fois particulier, mais aussi d'intérêt général, puisqu'elle suscite aujourd'hui toute une série de préoccupations, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau des États. La revendication d'un droit à la santé pour tous est aujourd'hui devenue une préoccupation extrêmement pressante, prégnante, et qui joue un rôle important. Alors, la santé est également concernée par la question du bien commun, notamment à travers la préoccupation éthique, des questions médicales, où la notion de bien commun joue là encore un rôle important. Et on peut prendre l'exemple du code français de déontologie médicale, où la notion d'intérêt général, mais aussi de bien commun, est très présente. Alors je voudrais souligner deux versions qui sont importantes de la notion d'intérêt général. D'abord une version transcendante. Dans une certaine version de l'intérêt général est présenté comme une notion qui a une valeur en soi et qui est supérieure aux intérêts particuliers. Inversement, dans une version immanente, l'intérêt général, en quelque sorte, résulte d'une synthèse ou d'un traitement arbitral des différents intérêts particuliers. Donc on a vraiment deux versions nettement différentes, une version transcendante, une version immanente. Alors je voudrais, au cours de cette conférence, revenir sur, dans un premier point, la construction historique des notions d'intérêt général et de bien commun, pour ensuite, dans un deuxième point, essayer de montrer quelles sont les principales transformations récentes des conceptions de l'intérêt général. Montrer que cette notion a considérablement évolué au cours des années récentes. Alors d'abord, quelques mots sur la construction historique de l'intérêt général et du bien commun. Le bien commun est issu donc d'une tradition philosophique qui remonte à l'Antiquité gréco-latine, et saint Thomas s'est appuyé sur Platon et Aristote. Et Platon et Aristote représentent justement ces deux versions d'un intérêt général transcendant chez Platon, c'est l'intérêt de la cité qui s'impose à tous, alors que pour Aristote, au contraire, on a une version immanente, puisque l'intérêt ou le bien commun, ce qui deviendra le bien commun chez saint Thomas, l'intérêt commun donc chez Aristote, émane d'une harmonie, en quelque sorte, juste, équitable, consensuelle des différents intérêts particuliers. Chez saint Thomas, le bien commun, en quelque sorte, résume l'ensemble des finalités humaines, puisque cette notion essaye d'associer le respect de la personne humaine et les exigences du bien social, du bien de la société. Et saint Thomas souligne que ce bien commun est une valeur universelle, en quelque sorte, liée à la nature humaine, ce qui explique la pérennité et l'actualité encore aujourd'hui de cette notion de bien commun. Par la suite, le bien commun va en quelque sorte se laïciser, et on va trouver notamment chez Hobbes, au XVIIe siècle, dans le Léviathan, 1651, on va trouver une nouvelle version du bien public, qui cette fois-ci va reposer sur une nouvelle conception du pouvoir. Chez saint Thomas, le bien commun était vraiment le bien de la société, il avait une origine divine, et les individus, les personnes humaines devaient suivre un bien commun qui leur était extérieur. Hobbes considère au contraire que le bien public, bien de l'État, doit être construit par la volonté humaine, par la raison humaine, et ce sont les hommes, par le contrat social, qui doivent définir en quelque sorte eux-mêmes les finalités du pouvoir, et notamment du pouvoir d'État. Et une notion nouvelle, un siècle plus tard, au XVIIIe siècle, va incarner en quelque sorte cet ordre nouveau qui résulte d'une décision de la volonté humaine, et cette notion nouvelle sera la notion d'intérêt général. Elle apparaît donc au XVIIIe siècle avec deux versions dès le départ, une version qu'on pourrait qualifier de naturaliste. C'est la version sous la Révolution française de l'abbé Sieyès, version naturaliste. Pour lui, l'intérêt général équivaut à l'intérêt national. L'intérêt général, c'est l'intérêt de la nation en tant que telle, auquel les individus doivent, d'une certaine manière, se soumettre. Une autre version inspirée de Jean-Jacques Rousseau, une autre version de l'intérêt général, sera une version volontariste. L'intérêt général sera ici l'expression, en quelque sorte, de la volonté générale, et donc cette notion aura un contenu qui sera à chaque fois redéfini par l'expression de la volonté générale, qui va ensuite s'incarner à travers la volonté des représentants du peuple, donc des gouvernants, des décideurs publics. Au XIXe siècle, je vais très vite, hein, je brosse l'évolution très, très rapidement, au XIXe siècle, en particulier dans la conception juridico-politique dominante en France, cette notion d'intérêt général va devenir une notion clé du droit public, et elle va se fonder sur trois piliers principaux, que sont d'une part l'État-nation, d'autre part la souveraineté de l'État, et enfin l'autorité de l'administration sur la société civile. Donc l'intérêt général va se définir à cette époque, au XIXe siècle, et ce sera la définition encore en vigueur jusqu'à une période récente, l'intérêt général va se définir comme l'intérêt de la nation, incarné par l'État et par ses représentants, et mis en œuvre par l'administration. Au XXe siècle, cet intérêt général va permettre de légitimer le développement de l'État-providence, l'extension des services publics nationaux, et après la Seconde Guerre mondiale, on aura une version un peu nouvelle d'un intérêt général modernisateur qui va être incarné, monopolisé par la haute fonction publique au nom d'une rationalité de type technocratique. Pourtant, depuis le dernier quart du XXe siècle, cette liaison entre l'intérêt général et l'État va être contestée, et on y reviendra dans notre deuxième point. Je voudrais, pour terminer ce premier point, esquisser une petite comparaison entre les notions d'intérêt général et de bien commun. Alors, l'inconvénient peut-être de la notion d'intérêt général, c'est qu'elle apparaît comme une notion contingente, on vient de le voir, liée aux évolutions historiques du rôle de l'État. Inversement, le bien commun traduit la conviction qu'existent des valeurs en elles-mêmes et qu'elles sont accessibles à tous les hommes, de tous les, de toutes les périodes et de tous les continents. Donc on va retrouver cette idée d'universalité, de valeur commune à toute l'humanité dans cette notion de bien commun. En même temps, le bien commun désigne, je dirais, un bien-être à la fois matériel et spirituel, c'est-à-dire l'épanouissement de la nature humaine dans un cadre collectif orienté vers la recherche de la justice. Il y a donc une dimension morale, éthique, dans cette notion de bien commun. Mais on voit tout de suite, en même temps, l'inconvénient, puisque cette notion de bien commun est étroitement rattachée à la tradition chrétienne, et que la notion de bien apparaît plus subjective, en quelque sorte, que la notion d'intérêt, qui paraît plus neutre, plus objectif, plus proche de nous, plus palpable. Le rapprochement entre ces deux notions semble s'être opéré dans le dernier quart du XXe siècle, où l'on a vu apparaître une version nouvelle, beaucoup plus immanente, plus proche donc des intérêts particuliers, de l'intérêt général. Donc nous avons aujourd'hui des transformations de la notion d'intérêt général qui sont extrêmement importantes et qui vont dans le sens de la version immanente que j'évoquais tout à l'heure. Donc voyons maintenant les principales transformations de la conception de l'intérêt général. Alors, constatons d'abord que cette notion d'intérêt général s'est considérablement complexifiée au cours du dernier quart du XXe siècle, complexifié à la fois dans son contenu et dans ses modes d'élaboration. Son contenu s'est beaucoup diversifié, puisque l'intérêt général doit de plus en plus intégrer des objectifs difficilement conciliables, voire contradictoires. Il faut à la fois concilier les objectifs de liberté individuelle et de solidarité, de reconnaissance des droits subjectifs, des droits créances, et une nécessaire régulation sociale. Donc l'intérêt général doit combiner en quelque sorte ces différentes dimensions dans une notion synthétique. Au niveau de sa procédure, l'intérêt général n'est plus défini comme l'intérêt de l'État imposé aux citoyens, à la société civile, mais au contraire, il apparaît comme le résultat d'un long processus de consultation, d'arbitrage entre les intérêts particuliers, auxquels d'ailleurs il n'est plus présenté comme étant opposé. L'intérêt général immanent n'a plus la caractéristique de s'opposer et de s'imposer aux intérêts particuliers. Il résulte, si l'on peut dire, d'une coproduction à la fois de la puissance publique, de l'État au sens large, du marché et de la société civile. On peut dire que, d'une certaine façon, la notion classique qu'on évoquait tout à l'heure liée à l'État souverain a implosé à la fin du XXe siècle. Le monopole étatique de l'intérêt général a été remis en cause, a été dénoncé sous l'effet d'un ensemble de facteurs qui sont d'ailleurs de nature très diverses, sous les effets de la mondialisation, sous les effets également de la crise de confiance à l'égard de nos gouvernants. On a de plus en plus de doutes sur la capacité des gouvernants à prendre des décisions qui soient utiles et efficaces à long terme. Et donc cet élément a joué également un rôle dans la crise de conscience à l'égard de l'intérêt général. Autre facteur, c'est la montée des aspirations démocratiques, qui fait que là encore, on n'accepte plus un intérêt général qui nous est imposé de l'extérieur. Et puis, un peu partout à travers le monde, les recompositions territoriales au sein des États, les processus de gouvernance multiniveau, de décentralisation, qui font que la notion d'intérêt général est maintenant codéfinie, coproduite par plusieurs entités et plusieurs niveaux territoriaux. Alors pour essayer de synthétiser de façon la plus claire possible ces évolutions, je vais essayer de regrouper ces évolutions autour de trois trois processus principaux. D'abord, un processus d'éclatement de la notion d'intérêt général. Ensuite, un processus de recomposition. Et puis, pour terminer, un processus de mondialisation. D'abord, éclatement de la conception traditionnelle de l'intérêt général. Vous l'avez compris, l'adéquation traditionnelle entre l'État et l'intérêt général, et la nation d'ailleurs, est désormais rompue. Dans beaucoup de domaines, l'éducation, la santé, la sécurité, l'environnement, par exemple, l'État ne parvient plus à assurer efficacement ses missions d'intérêt général, et donc il est amené à partager, déléguer, bon gré mal gré, ses responsabilités. Et la formule, par exemple, du préambule de la Constitution française de 1946, qui dit encore, puisque ce texte est en France toujours en vigueur, qui disait donc que la nation garantit à tous la protection de la santé, a perdu aujourd'hui beaucoup de sa pertinence. Comme vous le savez, les grands enjeux aujourd'hui de la santé se situent à un niveau mondial, mondialisation des risques, des dangers, des maladies, qui font que les États ne sont que des parties prenantes dans un puzzle beaucoup plus large d'intervenants en matière de santé. Ce qui est vrai au-delà de l'État est vrai aussi à l'intérieur des États où les différents niveaux de collectivités territoriales ou bien encore des partenaires privés de ces collectivités jouent un rôle croissant dans la mise en place de nouvelles politiques et de nouveaux programmes en matière de santé. Et puis il y a une société civile, vous et moi, qui sommes peut-être de plus en plus préoccupés, conscients de l'importance des problèmes de santé et de ces enjeux, qui sommes de plus en plus préoccupés aussi par l'augmentation du coût considérable aujourd'hui avec les nouvelles technologies, notamment des services de santé. Et donc cette préoccupation implique une nouvelle perception, une nouvelle conception de l'intérêt général. On a donc un éclatement de l'intérêt général qui est à la fois un éclatement territorial ou géographique et d'un autre côté un éclatement thématique, un éclatement du contenu de l'intérêt général. D'abord, un éclatement territorial ou géographique. On parle aujourd'hui d'intérêt général local. On reconnaît par là que les collectivités locales ont la capacité de contribuer, voire même de définir elles-mêmes ce que peut être le contenu de l'intérêt général. On parle d'un intérêt général européen et on parle même aujourd'hui, on y reviendra, d'un intérêt général universel ou mondial. Toutes ces notions sont aujourd'hui présentes dans les discours politiques, voire progressivement également dans les textes juridiques. Ce qui est vrai de cet éclatement territorial est vrai aussi d'un éclatement thématique de l'intérêt général. Les notions qui font le contenu de l'intérêt général ont considérablement évolué au cours des 25 ou 30 dernières années. L'intérêt général non seulement passe par la reconnaissance aujourd'hui des intérêts particuliers, mais il se définit de manière différente, nouvelle, par exemple au principe traditionnel en droit public d'indépendance ou de neutralité de la fonction publique, succède aujourd'hui, vous le savez bien, un impératif d'efficacité, de recherche de performance à travers cette idée d'un intérêt économique général, à travers le nouveau management public. En France, la nouvelle loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, qui introduit progressivement dans l'action administrative une obligation de résultat et non plus seulement une obligation de moyens. On a également en France l'influence du droit communautaire qui est devenu du droit européen, qui est devenu la source principale de notre droit, et à travers ce droit communautaire pénètre dans le droit public, les concepts liés au marché, à la concurrence. On parle même aujourd'hui d'un droit administratif des affaires ou d'un droit administratif de la concurrence. Donc éclatement de l'intérêt général, à la fois territorial et thématique, mais pour autant Il me semble, et c'est l'idée que je voudrais défendre devant vous, il me semble que cet éclatement ne signifie pas déclin ou disparition de l'intérêt général, mais plutôt recomposition. Un intérêt général uniforme, monolithique, centralisé, autoritaire, succède aujourd'hui à un intérêt général qui est pluraliste, qui est négocié, qui est souple, qui est adaptable, qui est fondé sur un principe de diversité. Et il me semble que deux notions résument assez bien cette recomposition aujourd'hui de l'intérêt général, qui sont d'une part la notion de contrat et d'autre part la notion de démocratie participative. Alors le contrat d'abord, vous le savez, a véritablement envahi le droit public en France, mais aussi à travers le monde. Et la démarche contractuelle est maintenant omniprésente dans tous les domaines de l'action publique, qu'il s'agisse des relations entre l'État et les collectivités infranationales, les collectivités territoriales, qu'il s'agisse des relations entre l'État et ses partenaires privés, les contrats de partenariat public-privé, d'inspiration en partie américaine, et enfin les relations internes même à l'administration. On voit apparaître maintenant en France, depuis quelques années, sous l'influence du droit européen communautaire, on voit apparaître la notion de contrat à durée indéterminée au sein même de la fonction publique, alors que on avait une tradition en France de statut, de position statutaire des fonctionnaires qui interdisait en quelque sorte ou excluait l'introduction de cette notion de contrat de travail à durée indéterminée au sein de la fonction publique. Alors le contrat repose sur une conception qui est radicalement nouvelle de l'intérêt général. L'intérêt général n'est pas n'est pas défini préalablement au contrat, au contraire, il résulte de la négociation contractuelle. En quelque sorte, on passe d'une approche classique essentialiste de l'intérêt général. Il y avait une essence de l'intérêt général qui était définie par nos représentants, nos gouvernants, les décideurs publics. On passe à une conception existentialiste, si l'on peut dire, de l'intérêt général, c'est-à-dire que l'intérêt général prend corps, prend forme progressivement au cours de la négociation contractuelle, et à chaque nouveau contrat apparaît une nouvelle approche et une nouvelle conception de l'intérêt général. Encore une fois, l'État a donc perdu dans cette affaire son monopole de l'intérêt général. Il partage au sein de la procédure contractuelle la définition de l'intérêt général avec ses partenaires, qu'il s'agisse d'une autre personne publique ou qu'il s'agisse d'une personne privée, ou bien encore qu'il s'agisse des tiers bénéficiaires en quelque sorte ou destinataires de la procédure contractuelle. Ces tiers, c'est la société civile, ce sont les citoyens, c'est vous et moi qui sommes considérés comme, à travers le contrat en quelque sorte, partie prenante de la définition de l'intérêt général. Or, ceci dit, notons quand même que ces procédures contractuelles ne présentent pas toujours toutes les garanties de démocratie, de respect des formes démocratiques. Notons également que cette souplesse dont on peut se réjouir de la définition de l'intérêt général présente aussi des inconvénients, puisque en termes de, par exemple, de sécurité juridique, de prévision des caractéristiques et de la définition de l'intérêt général, on peut craindre que le rapport de force, en quelque sorte contractuel, ne joue un rôle trop déterminant et trop imprévisible parfois dans la définition de l'intérêt général. Du coup, on peut avoir deux perceptions de cette désétatisation de l'intérêt général. On peut avoir une perception optimiste et se dire que finalement c'est un signe positif d'ouverture de l'action publique, un signe positif de démocratie participative en marche, mais on peut aussi craindre que le fait que le lien entre l'intérêt général et l'État se soit distendu soit aussi la marque, le signe d'une dissolution progressive du lien social et d'un affaiblissement des politiques de solidarité. Donc deux versions, l'une positive, l'autre plus négative, de cette évolution de l'intérêt général dans un sens où l'État n'a plus le monopole de cette notion. La démocratisation de l'intérêt général, si on prend la version positive, peut être considéré comme s'inscrivant dans un mouvement très large d'extension des espaces publics et privés, de délibération, de réflexion, de proposition. On admet de plus en plus aujourd'hui que des associations, par exemple de protection de l'environnement, puissent contribuer par elles-mêmes à la définition de l'intérêt général, que des individus eux-mêmes, en tant que particuliers, puissent aussi contribuer personnellement à cette définition de l'intérêt général. Mais en même temps, on voit bien à travers cette approche que les conceptions classiques de la démocratie représentative peuvent être bousculées, puisque la démocratie représentative était quand même fondée sur l'idée que nos représentants, nos élus, sont censés en quelque sorte savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous, et leur mission étant de prendre des décisions et de définir des politiques au nom d'un intérêt général qui nous dépasse d'une certaine manière. Si cette démocratie représentative est contestée au nom d'un intérêt général plus partagé, plus diffus dans le corps social, là encore on peut y voir un aspect positif, mais on peut craindre aussi que ce nouvel intérêt général ne soit plus aléatoire, plus sensible en quelque sorte aux groupes de pression les plus puissants, qui ne sont pas forcément toujours animés des meilleures intentions. Et donc cette nouvelle version de l'intérêt général impose sans doute de nouveaux mécanismes de régulation. Enfin, je voudrais terminer par la dimension de mondialisation de l'intérêt général. Après ce processus d'éclatement, ce processus de recomposition, on assiste aussi à un processus, me semble-t-il, de mondialisation de l'intérêt général. Au niveau européen, c'est très net, hein, la notion d'intérêt économique général était déjà présente dans le traité de Rome, fondateur de l'Europe économique en 1957. Aujourd'hui, cette notion d'intérêt économique général a donné naissance en droit communautaire à la notion de services d'intérêt économique général, qui sont des services marchands faisant l'objet d'une tarification auprès des usagers clients. Mais depuis quelques années, on a assisté aussi dans les textes de l'Union européenne à l'apparition d'une nouvelle notion qui est la notion plus courte, plus ramassée, de services d'intérêt général qui recouvrent en priorité donc des prestations non marchandes que les autorités publiques, qu'elles soient nationales ou locales, destinent à leurs administrés. Et on voit bien que dans le secteur de la santé, notamment, la distinction entre services marchands et services non marchands est extrêmement délicate et difficile à établir et évolutive à travers le temps. Au niveau mondial, on voit également apparaître de nouvelles notions, dont l'une sera l'objet d'ailleurs de la prochaine conférence, qui est la notion de patrimoine commun de l'humanité, qui est apparue dans les années 60-70 à propos des fonds marins et de l'espace extra-atmosphérique, et qui renvoie à l'idée qu'il y aurait en quelque sorte un intérêt universel de l'humanité tout entière, et que certains bien, alors au sens à la fois bien comme patrimoine et bien comme valeur qui mérite d'être poursuivie, donc que certains biens méritent d'être protégés parce qu'ils représentent un intérêt pour l'ensemble de l'humanité. La notion de bien public mondial plus récente, concerne notamment le climat, l'eau, la biodiversité, peut aussi être interprété comme l'amorce d'un processus d'universalisation de l'intérêt général, donc d'une reconnaissance progressive d'une identité d'intérêt pour l'ensemble des peuples et des nations qui composent le monde. Alors pour conclure, Il me semble que cette notion d'intérêt général, qui a donc évolué considérablement, nous amène en définitive à poser la question des valeurs sur lesquelles elle repose. D'où d'ailleurs l'intérêt et la pertinence de la référence à la notion de bien commun. Si l'intérêt général, pour nous résumer, n'appartient plus à l'État, s'il résulte d'une hiérarchisation sans cesse renouvelée des intérêts publics et privés, le risque, on l'a évoqué, est celui d'une très forte insécurité dans la définition et la conception de cet intérêt général, et donc le risque, c'est que les acteurs les plus puissants ou les plus actifs ne soient tentés de prendre en main et de monopoliser cette définition de l'intérêt général. Si l'intérêt général n'émane plus, comme c'était le cas traditionnellement, de la loi, mais plutôt du contrat, si la dimension économique de l'intérêt général devient de plus en plus forte, est-ce que le risque n'est pas de voir cet intérêt général se diluer dans le désordre d'une multitude de droits subjectifs ou de droits d'intérêts collectifs, chacun des groupes, en quelque sorte, s'arc-boutant sur leur propre conception de l'intérêt général. C'est pourquoi, il me semble, que la notion de bien commun, en raison même de sa dimension universalisante, de sa référence à des valeurs éthiques et à l'idée d'une nature humaine universelle qui pourrait supporter cette notion, peut permettre de faire progresser notre réflexion sur la place qu'occupe aujourd'hui l'intérêt général. Pour terminer, s'il y avait peut-être trois mots à retenir de ces évolutions qu'on vient de retracer de l'intérêt général, les trois mots que je voudrais mettre en valeur sont d'une part le mot immanence, d'évolution vers une conception de plus en plus immanente, donc émanant des particuliers, des individus, donc cette idée d'immanence. Ensuite, l'idée d'éclatement, hein, l'intérêt général un peu comme un phénix éclate et puis il renaît à chaque fois de ses cendres. Et enfin, l'idée de recomposition, un intérêt général qui se recompose, et cette recomposition étant aujourd'hui de plus en plus évolutive, et on assiste à une plasticité, une souplesse croissante de cette notion de l'intérêt général. Voilà quelques mots pour essayer de situer un petit peu les évolutions récentes de cette notion, et je vous remercie pour votre attention pendant cette conférence. Ce sont des services qui ne donnent pas lieu à une tarification auprès de l'usager, donc qui sont offerts en quelque sorte, qui sont des prestations qu'une collectivité, que ce soit l'État ou une collectivité locale, prend en charge, en fait qui sont financées par l'impôt plutôt que par l'usager, hein, par le client.
Donc les assurances, par exemple, tombent, encore des assurances vie, tout ça dans marchand, mais
oui.
Système de santé, non marchand encore.
Alors, ça, c'est une des grandes interrogations. Quelle est la part du système de santé qui relève du secteur marchand? Et je ne suis pas non plus spécialiste en droit communautaire, mais il me semble que les communautaristes ne sont pas d'accord sur la frontière qui doit être tracée entre les services de santé marchands et les services non marchands. Mais la santé relève des deux secteurs dans la conception actuelle du droit communautaire.
Questions, commentaires, oui, je vais savoir
Que pensez-vous de l'évolution en fait, de l'intérêt général, parce que vous avez un rappel historique et de la situation actuelle,
oui.
Avec la recomposition, mais finalement dans le futur, ça va donner quoi?
Ah. Oui, alors on peut se poser effectivement beaucoup de questions. Bon, il me semble, pour avoir étudié la notion d'intérêt général depuis ses origines, il me semble que c'est une notion qui est en quelque sorte indémodable. C'est-à-dire qu'à chaque époque, on la retrouve sous des versions différentes et sous des contenus et des formes d'élaboration qui sont différents. Mais je dirais que toute société a en quelque sorte besoin d'un principe d'une finalité commune, voilà, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et j'ai le sentiment que la notion d'intérêt général, je ne sais pas quel nom peut-être elle pourra prendre par la suite, mais ne disparaîtra pas totalement. Il me semble que toute collectivité humaine a besoin de se définir des finalités communes, a besoin de se définir des objectifs à poursuivre. Alors, ce qui a évolué dans le temps, c'est la manière de définir ces objectifs, c'est le contenu aussi de ces objectifs. Il y a 20 ou 30 ans, on construisait des autoroutes et des viaducs en s'interrogeant avant tout sur la possibilité d'améliorer la circulation routière. Aujourd'hui, on s'interroge sur des questions évidemment d'environnement, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des autoroutes plus respectueuses de l'environnement, et puis on s'interroge aussi, bien sûr, les événements récents le montrent, sur les questions de sécurité. On attend de nos décideurs publics non seulement qu'ils nous construisent des viaducs, mais qu'ils nous construisent des viaducs solides sur lesquels on puisse circuler avec un maximum de garanties de sécurité. Donc vous voyez que les conceptions évoluent. Je ne dis pas qu'il y a 30 ans, on ne se préoccupait pas de l'environnement et de la sécurité, mais c'était sans doute une préoccupation qui était moins dominante à cette période. Donc il me semble que la notion d'intérêt général présente cette ambiguïté, et on le voit bien à travers son caractère à la fois immanent, transcendant. Dans son caractère transcendant, il y aurait l'idée qu'on retrouve dans l'idée de bien commun, qu'il y a un intérêt général qui est en quelque sorte permanent, qui est transhistorique, transnational, et que tous les êtres humains ont une sorte d'intérêt commun à vivre dans les meilleures conditions possibles, en quelque sorte. Mais en même temps, on voit bien la réalité aujourd'hui des conflits entre les États, des définitions, des arbitrages qui doivent être faits entre les différentes conceptions d'intérêt général, des pressions qui sont exercées par les groupes, par les uns et par les autres. On voit bien qu'on ne peut plus se contenter de définir a priori quelles sont les finalités que nous devons poursuivre. Donc je crois qu'il faut accepter cette idée que l'intérêt général doit être en permanence recomposé, redéfini, réarbitré en quelque sorte, et que on ne reviendra plus à une conception un peu métaphysique, hein, et un peu théologique d'un intérêt général qui nous est défini de l'extérieur et auquel nous devons en quelque sorte nous soumettre. Mais en même temps, on voit bien que ce nouvel intérêt général indéfinissable a priori est beaucoup plus flou, beaucoup plus incertain, qui nous donne moins de garanties, il est moins rassurant. Et donc la question de l'avenir, je dirais, hein, si vous voulez mon point de vue, que j'y vois à la fois un aspect positif au sens où cet intérêt général va être de plus en plus partagé. C'est-à-dire que de plus en plus, nous-mêmes, citoyens, nous aurons à donner notre avis sur ce que doit être, selon nous, l'intérêt général, pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures. Mais, bon, en même temps, une démocratie participative, on le sait, est très difficile à mettre en place. Et elle sert parfois d'alibi à des décisions qui sont prises par ailleurs, et que l'on couvre de l'étiquette démocratie participative. Donc ne soyons pas non plus trop optimistes sur cette évolution démocratique. Vous voyez, donc je vous donnerai une réponse un petit peu partagée. Je crois que l'éclatement de l'intérêt général ouvre un champ de possibles très large au niveau de l'internationalisation de l'intérêt général, au niveau de la démocratisation de l'intérêt général, mais que ce champ de possibles, eh bien, ce sera à nous et aux générations futures à le prendre en main et à lui donner un contenu.
Et donc, en fait, vous ne pensez pas que finalement, à force de fractionner cet intérêt général et que chaque individu veuille trouver l'intérêt général comme intérêt particulier, que ça finit par finalement cet intérêt général n'existe plus.
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, c'est une thèse qui effectivement peut être défendue, mais je pense que c'est une thèse qui repose sur l'idée qu'il n'est de bon intérêt général que transcendant, en quelque sorte, c'est-à-dire défini de manière extérieure aux intérêts particuliers. Moi, je serais plutôt tenté de penser, mais j'ai peut-être tort, hein, je ne veux pas, qu'un intérêt général qui nous serait totalement extérieur, on a du mal à y croire. On a du mal à y adhérer. On a besoin de se sentir nous-mêmes directement concernés par le contenu même de cette.
On est complètement concerné, on mange cet intérêt général.
Mais c'est un peu ce que disait Rousseau lorsqu'il parlait de la volonté générale. Il dit la volonté générale n'est pas la simple somme des volontés particulières. Il faut que lorsque le citoyen réfléchit à l'avenir, il prenne en compte à la fois l'intérêt de tous hein, et son propre intérêt. Il faut qu'il fasse cet arbitrage permanent entre... C'est l'arbitrage que nous faisons tous les matins lorsqu'on choisit, je sais pas, de prendre la voiture ou le vélo ou de marcher à pied. On pollue, mais en même temps, on se dit c'est quand même... c'est parfois, on n'a pas le choix. Vous voyez, donc, je crois qu'en permanence, on fait des choix de ce genre. Comment ?
Ben, si on se faisait tous les matins, se réfléchissait en se disant je prends ma voiture ou mon vélo, ça serait parce qu'en fait, non, on va au plus efficace et on ne veut pas être pessimiste, mais les gens ils disent rarement oh, j'ai le temps ce matin, je me suis levé de bonne humeur, je prends mon vélo.
Oui, bon, quand je dis tous les matins, c'est une image, mais je pense que de plus en plus, on se pose quand même ce type de questions. Et moi, ce qui me frappe en venant ici au Québec, c'est la transparence des problèmes publics. Dans le métro, je voyais déjà les réflexions sur les responsabilités suite à l'accident du viaduc de la Concorde. On s'est dit, est-ce que les décisions étaient bien prises? Est-ce qu'on a bien réfléchi sur la façon dont il fallait prendre ces décisions? Et on voit ça apparaître, vous voyez, dans les textes qui défilent là, dans le métro. Je pense qu'en France, on ne verrait pas cela. S'il y avait un accident de ce type, on n'aurait pas immédiatement une réflexion sur est-ce que la décision a été bien prise, est-ce qu'il faut continuer à agir ainsi, est-ce qu'il ne faut pas modifier. Et j'ai quand même le sentiment, peut-être que je me trompe, mais même si tous les matins on ne se pose pas des questions sur est-ce que nos décideurs décident bien et est-ce que nous-mêmes, par notre propre comportement, nous contribuons à ce qu'ils décident bien ou mal, je pense quand même qu'il y a progressivement une prise de conscience du fait qu'on est tous impliqués dans des décisions sur des questions aussi importante que le réchauffement climatique ou l'avenir de la planète, on se sent, à notre niveau bien sûr, mais tous les niveaux sont importants, on se sent de plus en plus concerné et on pense qu'il y a là un intérêt général qui nous, non seulement nous préoccupe, mais sur lequel on peut avoir, à notre petit niveau, on peut avoir une prise partielle et pour lequel on peut avoir un rôle, il me semble. Et qu'aujourd'hui, c'est une réflexion, un comportement qui a tendance à se diffuser.
Oui, vous avez parlé de l'intérêt particulier versus l'intérêt général, mais du point de vue étatique, même si les fragments, c'est quelque part, il y a la mondialisation, mais j'ai toujours l'impression que c'est une notion floue, un peu, l'État pouvait mettre tout ce qu'il veut dans l'intérêt général, que ce soit des décisions à n'importe quel niveau, on peut toujours essayer de la justifier, de la définir en la mettant en action avec l'intérêt général et tous les autres points de vue.
Alors, justement, là, il me semble aussi que de plus en plus, on ne se satisfait plus d'une invocation abstraite et générale de l'intérêt général par l'État ou par les décideurs publics. On n'accepte plus une administration qui nous dit voilà ce que nous faisons parce que simplement il nous semble que l'intérêt général nous impose d'agir ainsi. De plus en plus, le citoyen, la société civile demande des comptes et demande quel est le contenu exact de l'intérêt général, comment il a été élaboré, qui a participé à sa définition, quels ont été les critères. Donc il y aurait peut-être un mot aussi qu'il faudrait rajouter à cette évolution de l'intérêt général. Il devient de plus en plus concret, enfin il a besoin d'une légitimation de plus en plus précise et concrète. On ne peut plus se contenter de la simple invocation de l'intérêt général, comme s'il fallait y croire, hein, comme si c'était quelque chose qui nous échappait et auquel nous devons croire, puisque d'autres plus savants ou élus pour cela ont décidé à notre place ce qu'était l'intérêt général, donc nous devons nous soumettre et y croire. Je crois que l'attitude aujourd'hui, c'est de dire nous avons des représentants, nous avons des décideurs publics qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, qui sont globalement bien intentionnés, honnêtes, et puis qui représentent des programmes, des options qu'ils essayent de mettre en œuvre. Donc nous respectons tout à fait leur statut, leur action, mais nous ne pouvons plus nous contenter de les croire sur parole. Nous avons besoin de savoir précisément ce qu'ils font, pourquoi ils agissent ainsi, comment. Alors, bien sûr, on ne peut pas suivre en permanence les processus de décision, mais il me semble qu'aujourd'hui, on a pris conscience du fait que on peut comprendre de mieux en mieux, et c'est quand même aussi l'objet un peu de l'analyse des politiques publiques, de la science politique, d'essayer de décrypter un petit peu mieux les mécanismes, je ne sais pas si on y arrive, les mécanismes de décision publique, et on essaye aussi ensuite d'en faire profiter tout le monde. Enfin, tout citoyen doit pouvoir avoir une meilleure connaissance des mécanismes de décision publique, et du coup, je reviens un peu toujours à la même idée, du coup il peut se sentir peut-être plus impliqué par le contenu de l'intérêt général. Mais vous avez raison, pendant très longtemps l'intérêt général a été un peu un masque. J'avais publié un ouvrage que j'avais intitulé « L'idéologie de l'intérêt général ». Aujourd'hui, j'utiliserai moins cette notion d'idéologie parce qu'il me semble qu'elle a un côté un peu péjoratif qui oriente dès le départ la perception de l'intérêt général. Donc je serais peut-être plus respectueux des contenus de l'évolution historique de l'intérêt général et je n'utiliserai peut-être plus cette notion d'idéologie. Mais il est vrai que les usages politiques et sociaux de l'intérêt général ont été pendant très longtemps et sont encore aujourd'hui, disons-le, des usages de légitimation, souvent de décisions déjà prises, que l'on couvre de la vertu en quelque sorte de l'intérêt général, sans aller plus loin et sans en définir le contenu précis.
Enfin, dernière question, oui. Mais en fait, on parle de l'évolution de l'intérêt général, on passe par trois phases que vous avez décrites dans votre projet, mais l'intérêt général, ça ne modifierait pas plus particulièrement par l'informatisation des gens, des citoyens, des technologies d'information. Avant, le citoyen ne connaissait pas ce qui se passait chez les supérieurs, chez les dirigeants, mais maintenant, les dirigeants savent ce qui se passe. Donc, par l'information, ben, là, c'est sûr que l'intérêt général se modifie.
Tout à fait. Et effectivement, je pense que dans les nouvelles techniques de l'information peuvent être des atouts extrêmement précieux pour ce développement de la démocratie participative qu'on évoquait tout à l'heure. Vous avez raison, j'aurais dû effectivement évoquer ce point qui joue un rôle de plus en plus important et qui joue aussi, bien sûr, un rôle central dans le processus de mondialisation, hein, d'universalisation pardon, de l'intérêt général. Vous avez tout à fait raison.
Comment faire en parlant il y a 2 semaines du bien commun, puis en évoquant le besoin que l'OMS a souvent souligné, surtout récemment avec la possibilité des pandémies, qu'on a parlé de. Nous allons parler du patrimoine commun de l'humanité dans 2 semaines, le 1er novembre, avec le fonds marin et l'espace. On a soulevé les biens publics mondiaux pour l'environnement. C'est à peu près 1999. Est-ce que l'intérêt général avec parce que je suis souvent dans les avions, est-ce que ça peut servir pour des notions de participation des pays pour la sécurité, par exemple, des citoyens?
Oui, alors,
parce qu'on cherche toujours les notions ont l'air d'être mêmes, mais ils ne sont pas, ils ont chacun leur spécificité que nous allons voir cette année. Et quand on évoque l'intérêt général aujourd'hui, à part, comme on vient de dire dans la salle, et ça ne résonne pas à moins d'être lié à quelque chose que tout le monde serait capable de comprendre, parce que c'est leur intérêt plus les intérêts des autres dans la communauté dans laquelle tout le monde est censé participer comme citoyen. Alors, il y a eu déjà des applications spécifiques ou en voie de traduction politique dans ce 20e siècle, par exemple.
Je pense qu'effectivement, tous les États ont intérêt à participer à cette définition d'un intérêt collectif, hein, alors interne d'abord, et ensuite sur le plan international. Alors, la grande question, professeur Morin, vous en avez parlé à propos de la notion de bien commun lors de la première conférence. La grande question, c'est de savoir si cet intérêt général, entre guillemets mondialisé ou universalisé, sera interétatique, c'est-à-dire résultera d'accords passés entre les États, ou bien est-ce qu'éventuellement des organisations internationales, des institutions internationales, l'ONU, d'autres, ou l'OMS, ou des ONG, peuvent elles aussi, parallèlement à l'État, contribuer à cette définition d'un intérêt général universel. Il y a deux risques. Hein. Le premier risque, c'est que les États soient très méfiants parce qu'ils ont peur de se sentir un peu dépossédés de ce qu'ils ont longtemps considéré comme étant quand même leur propriété privée, c'est-à-dire l'intérêt général. Donc, longtemps, tendance à penser que l'intérêt général, c'était eux, enfin, c'était les représentants des États, et ils ont du mal à admettre que d'autres, au niveau international, puissent aussi parler au nom de l'intérêt général. Mais bon, sont bien obligés aujourd'hui on sait que la scène internationale est quand même très largement diversifiée et que les États n'ont plus le monopole de la représentation au niveau international. Je pense que les États résistent, mais cette résistance va sans doute progressivement s'effriter et qu'on va voir apparaître. Alors c'est cette notion qui sera l'objet donc de la prochaine conférence, de patrimoine commun de l'humanité, sans doute un premier exemple, mais il y en aura d'autres. Espérons-le, enfin, on peut le penser, qui suivront et qui montreront que les États ne sont plus les seuls à définir cette notion d'un intérêt général universel.
Merci beaucoup, professeur Argent. Je vous invite à continuer.
C'est moi qui vous remercie.